de rendre présents autour des murs ces versets bibliques les uns les autres. Et ce matin, j'aimerais nous parler de l'Église comme un corps où chaque membre compte. On entend souvent que la foi est une affaire privée, qu'elle est quelque chose d'individuel qui relève de l'intime. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Alors j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous déjà pensé que votre foi n'est pas seulement votre affaire personnelle, mais qu'elle s'inscrit dans un corps? Avez-vous déjà pensé que votre foi n'est pas une affaire absolument personnelle, mais qu'elle s'inscrit dans un corps? On peut passer toute sa vie à ignorer son petit orteil, jusqu'au jour où on se prend un coin de meuble, et là on comprend que tout le corps est réveillé, et que même si on peut vivre sans notre petit orteil ou sans nos orteils qui nous complexent souvent, notamment l'été, ben ils font partie du corps. On peut vivre l'Église, on peut vivre la foi comme quelque chose qui ne nous concerne que nous, tout seuls. Je me souviens à l'époque d'un journaliste qui est décédé, Jean-Luc Delarue, faisait un peu la télévision, vous savez, du type « c'est ma vie, c'est mon choix, vis ma vie ». Toute une histoire. Et les gens venaient lui raconter toutes sortes d'histoires. Et parfois, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Tout un déballage voyeuriste, etc. Mais lui n'avait jamais raconté son histoire. Et quand il a raconté son histoire, il lui restait 9 mois de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pris dans des addictions multiples, de drogue, de cocaïne, etc. On peut vivre sa vie seul. On peut être persuadé que c'est ma vie, c'est mon choix. Et un jour être brutalement rappelé en fait qu'on n'est pas seul. Et je crois que l'Église est le bon instrument que Dieu utilise pour nous rappeler à nous-mêmes et au monde que vivre en chrétien, c'est vivre en société. Mais pas n'importe comment et pas n'importe laquelle. Une société autre. Parce que c'est une société qui se construit non pas autour des égaux des uns et des autres, mais qui veut se construire en ayant pour centre le Christ. Le Christ. Et c'est pour ça qu'elle est autre. En un temps où on le rejette, en un temps où le christianisme semble périmé pour l'Occident, vivre l'Église comme une société autre, centrée sur Jésus-Christ. Notre vision ici, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est de vivre l'Église comme une famille en Christ, où sa vie jaillit en abondance. Et ce matin, j'aimerais la décliner en vivre l'Église comme un corps où chaque membre compte pour la gloire de Dieu. Ce matin, je vous invite à méditer à travers un texte de l'apôtre Paul qui mobilise la métaphore du corps pour parler de l'union des chrétiens au Christ et les uns aux autres. Méditer cette réalité spirituelle, mais qui a des conséquences bien concrètes, bien pratiques pour nous. Qu'est-ce que cela signifie? Un corps où chaque membre compte pour la gloire de Dieu. J'aimerais partager cette méditation, cette réflexion avec vous en suivant 2 axes que j'ai formulés sous forme de questionnement. Qu'est-ce qui fait de nous des membres d'un même corps? Qu'est-ce qui fait de nous des membres d'un même corps? Qu'est-ce qui favorise ou perturbe le bon fonctionnement de ce corps? Je vous propose d'écouter l'apôtre Paul ou de lire dans vos Bibles 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 et suivants. le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et si il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, mais où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur en ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici, notre lecture. Amen. Excusez-moi, je vais boire de l'eau et je vais régler un petit problème technique avec ma tablette. Bien, dans ce chapitre d'1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, Paul répond à l'une des nombreuses questions à lui adressées par les Corinthiens. Ici, en particulier, la question de la manifestation, ou des manifestations, au pluriel, de l'Esprit. Et juste par fidélité à la structure de l'Épître aux Corinthiens, je dois vous rappeler, même si je n'aborderai pas ces questions, que la question soulevée ici, au chapitre 12, déborde le cadre de ce chapitre, comme vous le savez sans doute, puisque l'apôtre Paul va poursuivre le développement de cette question sur les manifestations de l'Esprit au chapitre 14. Alors, puisque nous avons appris à compter entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre... Waouh, vous êtes trop fort. Et le chapitre 13 est la clé de voûte du propos de l'apôtre Paul, puisque le chapitre 13, qui est pivot entre le 12 et le 14, trace une voie d'excellence qui est la voie de l'amour. Tant et si bien qu'il dit, pour faire le lien avec le chapitre 12, que si même j'avais la foi, le zèle qui pourrait me conduire jusqu'au don de mon corps pour une cause. Vous savez que ça existait ça. Par amour, des gens ont fait des choses incroyables, mais aussi par vanité. Il dit, si je n'ai pas l'amour, ne dis pas ça ne fait rien. Ne dis pas je n'ai rien. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Nous allons essayer de parler de ces sujets avec amour, sinon nous ne sommes rien. Donc je demande votre amour, bien que moi aussi, j'ai besoin de manifester cet amour en abordant ce sujet. Vous avez aussi compris une deuxième chose, c'est que le sujet dont je vais parler n'est pas la question de la manifestation des dons spirituels. mais bien la question de notre unité en tant que corps et des conséquences que j'aimerais tirer. Paul a écrit à une église travaillée par diverses tensions et dissensions qui les opposent. Certains Corinthiens se considèrent, alors à l'époque où Paul doit répondre à leurs lettres, comme des chrétiens de première classe, des chrétiens spirituels. Et ils regardent leurs frères comme étant ceux de la classe économique. Certes, ils sont dans le même avion, mais ils ne jouent pas la même classe, puisque eux, ils sont des chrétiens ordinaires ou charnels. Et ce qui amène les premiers à considérer que ceux de la classe économie n'ont pas le même menu que eux, c'est qu'ils vivent, par la grâce de Dieu, des dons formidables. S'il est une église du Nouveau Testament où l'Esprit est manifestement généreux en dons, c'est bien l'église de Corinthe. Des dons spectaculaires comme j'aimerais en voir encore aujourd'hui et chaque jour dans le ministère. Ils guérissent les malades, ils reçoivent des paroles prophétiques, des images, ils exhortent, ils partagent, ils encouragent. Ils parlent même la glossolalie, ou parler en langue. Et ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème vient du fait qu'ils ont investi les dons de l'esprit comme quelque chose qui faisait d'eux des chrétiens supérieurs aux autres. Et ils dénient à leurs frères qui ne manifestent pas les mêmes charismes, peut-être aussi spectaculaires, la sincérité et l'authenticité d'avoir eux aussi bu à la même source qu'eux. Voilà comment, étirés par leur division, ils risquent de fracturer l'unité du corps. L'apôtre Paul ne peut pas se taire, il doit donc répondre. Et sa réponse, en plusieurs temps, cherche à articuler l'un et le multiple, l'unité et la diversité, et à montrer un chemin qui puisse aider cette communauté à éviter la fracture, le morcellement du corps du Christ. L'apôtre voit donc rappeler ce qui fait que les chrétiens sont d'abord et fondamentalement membres d'un même corps. Et c'est le premier axe de notre méditation. Nous sommes tous membres d'un même corps. Il nous donne quelques repères que je ne commenterai pas de manière égale, qui pourraient être intitulés les fondements de notre unité en Christ. D'abord, il nous rappelle que nous avons, verset 13, tous été baptisés dans un seul et même esprit. Vous savez, dans la société humaine, aux yeux humains, comment on reconnaît des gens qui font partie d'un même groupe, d'une même corporation? Comment on reconnaît des gens qui font partie d'une même famille? Ils ont un même nom patronymique, par exemple, en commun, quand c'est dans la famille. Quoique parfois c'est compliqué, si vous venez au Cameroun et que vous n'avez que le nom patronymique, alors vous allez passer à côté. Mais on reconnaît aussi des gens d'un même groupe, d'un même corps, d'une même corporation, pour certains, parce qu'ils ont une uniforme. Ah, c'est un policier, il appartient au corps des policiers. Ah, c'est un militaire. Ah, c'est une hôtesse de l'air. Ah, c'est un capitaine de la marine. On peut reconnaître certains parce qu'ils se rallient derrière un même emblème historique ou derrière un même totem, etc. Parce qu'ils ont un même langage, une communauté de culture, ou parce qu'ils ont partagé la même histoire, ou encore parce qu'ils ont en commun les mêmes rites ou les mêmes rituels. Vous aurez remarqué que tout ceci, qui a son importance dans une vie sociale, il ne s'agit pas de balayer ça d'un revers de main, ça fait partie de notre humanité, mais tout ceci reste des marqueurs de reconnaissance bien extérieurs. Et que ce qu'il y a de fondamentalement nouveau pour l'Église en Jésus-Christ, c'est que ce ne sont plus ces marqueurs extérieurs qui vont configurer et définir notre identité. Ce qui va faire notre unité, ou ce qui fait notre unité fondamentalement, ce n'est pas le fait que nous soyons tous fans du CMLK. Ce n'est même pas le fait que nous connaissions l'histoire du CMLK et que nous étions là dès le début. Ce n'est pas le fait que nous voulions promouvoir une même culture, Assemblée chrétienne, baptiste de Nîmes ou CMLK. Ce n'est même pas le fait que nous nous apprécions, que nous nous aimions. Ce n'est pas non plus le fait que nous ayons le désir de parler la même langue, la même culture. Non, ce n'est pas ça. Même si c'est important de construire du commun. Mais ce n'est pas ce qui fait fondamentalement que nous sommes appelés corps ce matin. Et que les premiers chrétiens étaient appelés corps avant nous. Corps du Christ. La raison, elle est là sous nos yeux, sur le texte. Nous avons été tous baptisés dans un seul, pas deux sources, dans un seul et même esprit. Et ce n'est pas moi, mais c'est bien l'apôtre Paul qui insiste sur tous étaient baptisés. Montre que ce que l'apôtre Paul affirme ici est valable pour les uns et les autres. Pour ceux qui se pensent en première classe comme pour ceux qui sont regardés comme étant restés en deuxième classe. Vous avez tous et nous avons tous été baptisés dans l'Esprit Saint, dit l'apôtre Paul. Alors cela peut prendre des formes diverses et variées selon l'expérience des uns et des autres dans leur cheminement. Ce n'est pas ça qui est remis en question. Mais c'est que l'apôtre Paul, le disant, se réfère pour nous à la réalité fondatrice, à l'acte de naissance de l'Église. L'Église n'est pas née parce que les copains d'abord se sont dit « Viens, venez, copains !» Vous savez, copains d'abord. Et on va faire quelque chose ensemble. Ça, c'est l'église peut-être locale qui naît comme ça. L'église n'est pas née parce qu'un groupe de gens qui se reconnaissent de la même sensibilité se disent « Ah ben tiens, tu es baptiste, moi aussi, tiens, on va créer une église baptiste. » L'église de Jésus-Christ n'est pas née comme ça. Et l'église dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'église une. L'église universelle du Christ. Et celle-là, elle n'est pas née de cette manière-là. Elle est née d'après acte 2, du baptême d'en haut. La vie d'en haut promise par le Christ, 50 jours après sa résurrection, leur a été donnée. Ils ont été plongés, immergés dans ce qu'on a appelé l'effusion du Saint-Esprit. Oh, mais c'est une effusion abondante. Hein, parce que moi, je ne sais pas, une effusion, ça semble être du goutte à goutte. Mais là, ils ont été immergés. Ce qui est appelé le baptême, c'est-à-dire une immersion, une plongée dans la vie de l'Esprit. Et toutes celles et ceux qui étaient alors en Christ, qui le confessaient au jour de Pentecôte, ont expérimenté la concrétisation de cette promesse de Joël. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles, vos jeunes et vos vieux recevront mon Esprit et ils seront prophètes. Tous baptisés dans l'Esprit Saint, tous ayant eu part dans l'Esprit Saint. Cette expérience qui est fondamentale, fondatrice, est le témoignage de l'œuvre de régénération que le Saint-Esprit a accomplie en nos cœurs, sans lequel nous ne pouvons pas venir en Christ. Tant et si bien que le baptême d'eau, comme on a baptisé 17 personnes ici, n'est que la manière de rendre visible ce travail secret que l'Esprit a fait dans les cœurs. La source et le fondement de notre unité, frères et sœurs, réside non pas dans la validation du frère, non pas dans la validation de ma sœur. Tu pourras toujours croire que je n'ai peut-être pas vécu ce baptême. Tu pourras toujours croire que si ça ne se manifeste pas comme ça s'est manifesté pour toi, je ne suis peut-être pas authentique. Ça, je n'y peux rien. Et ça, c'est ton affaire. Mais ce que la parole de Dieu déclare ce matin, non seulement nous avons tous été baptisés, mais si ça ne suffisait pas de l'entendre de cette manière-là, l'apôtre Paul va utiliser une autre formule qui signifie la même chose. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que même ceux de la première alliance, lorsqu'ils étaient au désert, ils ont bu à un rocher. Et que ce rocher, c'était le Christ. Et le Christ lui-même, dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39, avait promis que celui qui a soif au milieu de la fête religieuse s'est levé le dernier jour, le plus grand jour. Il s'est levé, il a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Et Jean ne nous laisse pas dans le doute. Jean interprète comment comprendre. Il disait cela à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu parce que le Christ n'était pas encore mort. Mais au moment où Paul écrit aux Corinthiens, le Christ, non seulement il était mort, ressuscité, glorifié dans les cieux et avait répandu son esprit sur toute la communauté de celles et ceux qui croient en lui. Aussi, notre unité fondamentale dépend de cet événement-là du salut. Et il n'appartient pas à toi, frère, à toi, sœur, de remettre cette réalité en question dans la vie d'un autre. C'est souffrant. C'est souffrant de remettre en question l'authenticité de cette réalité dans la vie d'un autre croyant. Je peux vous dire en tant que pasteur et simplement en tant que frère que j'ai rencontré en écoute beaucoup de personnes dont les ailes ont été coupées, dont l'élan vital et la joie en Christ a été coupé parce qu'on s'est entêté à les vouloir faire entrer dans une expérience stéréotypée qui n'était pas la leur et qui n'est pas nécessaire, bibliquement parlant. Ce qui nous est nécessaire, c'est d'être unis au Christ par l'Esprit Saint. C'est d'être baptisé en Christ par l'Esprit Saint. Mais ce qui n'est pas nécessaire, c'est de vouloir que ça se passe comme ça s'est passé pour moi ou pour toi. C'est de vouloir reproduire une forme que tu connais. Le Seigneur est tellement beaucoup plus proche de chacun de nous. Et il sait comment se manifester dans le don de son esprit à chacun de nous. Je voulais enfoncer une porte ouverte pour les uns, mais peut-être ouvrir une porte pour d'autres. Pour d'autres qui se demandent s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Peut-être nos jeunes se demandent s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Peut-être nos jeunes doutent de l'Esprit Saint, peut-être parce qu'ils n'expérimentent pas la glossolalie, ou parce qu'ils ne comprennent peut-être pas l'esprit de prophétie, ou parce qu'ils n'arrivent pas à dire dans le langage de l'autre génération. Je veux vous dire, je le crois vraiment de la part du Seigneur, soumis à sa parole et au discernement de ceux ici aussi qui la lisent, qu'il est impossible d'être en Jésus-Christ sans avoir le Saint-Esprit. Qu'il est impossible d'être disciple de Jésus et de marcher en disciple de Jésus sans avoir été uni au Christ par le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Et que oui, la diversité des manifestations de la vie de l'Esprit a une palette tellement large que même l'apôtre Paul n'a pas fermé la parenthèse. Et c'est important d'être confirmé dans cette étape fondatrice d'une foi personnelle qui ne doit pas être remise en question. N'acceptez pas d'être remise en question sur ce que seul le Christ a fait dans votre cœur. Parce que les formes, elles changent. Les sensibilités et leurs expressions changent selon les lieux, selon les cultures, selon les saisons de vie. Par la grâce de Dieu, il m'a été donné, dans mon humble cheminement, de vivre des plénitudes et des plénitudes à différents moments de ma vie et de différentes manières. De vivre des conversions et des reconversions, des retournements à différents moments et dans différents lieux de ma vie. Sortons, frères et sœurs, de nos stéréotypes. Ne sclérosons pas le Saint-Esprit dans une forme figée. Ne sclérosons pas l'autre non plus. Et accueillons avec joie et reconnaissance l'unité fondamentale en Jésus-Christ. Elle nous est donnée. Elle nous est donnée, quoi que nous en pensions et quoi que nous fassions. C'était le premier axe. Le second axe, j'aimerais juste partager là aussi rapidement. Pardon, j'ai sauté, Sylvie, merci de me suivre, j'ai sauté une slide, mais voilà, c'était cette conclusion. Il y a un seul corps, un seul esprit, etc., de Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul est celui qui a le plus mobilisé dans le Nouveau Testament cette métaphore du corps. Et je ne veux pas vous convaincre, moi, je veux nous laisser convaincre par l'exposition de la parole. Il y a un seul corps, il y a une seule Église du Christ. Il y a plusieurs membres de l'Église du Christ. Et notre Église veut être la manifestation de l'Église une. Elle ne veut pas être la manifestation de l'Église baptiste, darbiste, ménonite, pentecôtiste. Elle veut être la manifestation de l'Église une. Parce qu'il y a un seul corps. Parce qu'il y a un seul esprit. Parce que nous avons été appelés à une seule espérance. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Parce qu'il y a une seule foi. Parce qu'il y a un seul baptême. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et après avoir souligné cette unité, l'apôtre Paul poursuit, Dieu Père de tous ceux qui sont en Christ. Cette paternité spirituelle, il est le Père de tous les humains au sens général. Mais il est le Père, sa paternité connue et filiale se manifeste sur celles et ceux qui le connaissent comme Père en Jésus-Christ. Père de tous dans l'Église. Ce n'est pas le Père des uns et pas celui des autres. Il règne sur tous. La seigneurie du Christ, sur tous, pas sur les uns et pas sur les autres. Il n'y a personne dans l'Église qui pourrait dire, oui, mais le Christ, il est Seigneur que pour mon prochain. Moi, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon choix. Non. Non, c'est une partie de l'Évangile qui ne se laisse pas transformer ça. Ta foi personnelle n'est pas que personnelle. Elle a une dimension de corps. Il règne sur tous. Il agit par tous. Par tous. Et pour tous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas encourageant de savoir que ça ne dépend pas de notre couleur de peau, de savoir que ça ne dépend pas de nos sensibilités théologiques, de savoir que quand nous discutons ou quand nous sommes en désaccord, ça ne peut pas être en jeu. Ça ne peut pas être en jeu. Le lien qui nous unit en Christ par l'Esprit, ça ne peut pas être en jeu. Nos opinions, nos tempéraments, mon mauvais caractère ou le tien. Ça peut être en jeu. Mais l'enjeu dépasse tout ceci et doit nous déplacer et nous orienter vers celui qui est la tête, à savoir le Christ. Le deuxième axe, disais-je, nous amène à considérer qu'est-ce qui favorise ou non le fonctionnement harmonieux de ce corps. Au verset 14, pour mieux montrer comment s'articule dans ce corps, l'un et le multiple, l'unité et la diversité, l'apôtre Paul souligne une évidence. Verset 14, un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Vous avez remarqué ça? C'est un scoop, hein? C'est un scoop extraordinaire. Mais vous savez, parfois les vérités, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas de l'ordre de l'évidence, donc ce qui saute aux yeux doivent être rappelés. Cette affirmation nous permet de souligner l'importance de la diversité. Et je voudrais, sur ce point, souligner trois autres petits aspects. Je ne sais pas si le PowerPoint a un souci. Voilà. Premièrement, comment être cette église corps où chacun compte? Alors, je ne donne pas une recette, je veux juste souligner quelques éléments du texte. Verset 14, ici. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Alors, j'en déduis que nous sommes invités à accueillir notre diversité, à accueillir la diversité de nos différences. Je ne vais pas trop développer parce que notre pasteur stagiaire Hamish, qui nous a entretenus il y a 15 jours sur accueillir, s'accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu, a déjà dit des choses importantes sur cet accueil, y compris aussi de notre diversité. Oui, j'aimerais simplement ajouter qu'effectivement, vous voyez, il a pris la jolie image du bouquet de fleurs, hein. Magnifique, c'était puissant ça, pour souligner la diversité, n'est-ce pas? Puis j'avais ajouté qu'on est dans un même vase et de temps en temps, il faut changer l'eau hein, pour se laisser renouveler. Sinon, cette diversité peut être toxique. Hein. Pourquoi je voudrais juste dire, est-ce que vous avez remarqué que la diversité et la différence est constamment en débat dans notre pays? Et je vous rassure, au Cameroun aussi, hein, dans tous les pays, hein, il y a un moment donné où on débat parce qu'on veut faire nation. Ce qui est dangereux, et c'est là-dessus que je vais nous alerter, je trouve, c'est qu'au motif de faire nation, on instrumentalise nos peurs de l'autre différent. On instrumentalise la différence pour ce qu'elle est elle-même. On instrumentalise la diversité. Or, il me semble que le problème n'est pas dans la différence intrinsèquement, ni dans la diversité. Le problème est dans la difficulté à nous réunir, à nous rassembler, profondément sur ce qui fait nation. Et il me semble que parce que l'Église et parce que les chrétiens sont aussi fils et filles de leur temps, et qu'il y a une porosité parfois culturelle, y compris qu'on retrouve dans l'Église. On ne vit pas en dehors de la société. Cette thèse du grand remplacement ou cette hypothèse pourrait également nous saisir en Église. C'est genre, vous avez vu la région parisienne ? 2 chrétiens sur 3 sont marrons. En Ile-de-France. C'est un basculement, c'est un changement. Je ne reconnais plus mon Église, au secours, mon Église change. Au secours, mon Église se créolise. Au secours, mon Église se colorie. Vous savez que moi, je suis très à l'aise pour en parler. Hein. Alors, vous direz, j'ai un avantage, c'est que je suis marron. Ou noir, ou black, suivant les terminologies. Non, il nous faut changer de regard sur la différence. Il nous faut déconstruire un certain nombre d'a priori sur l'autre différent, sans quoi nous ne pouvons pas l'accueillir comme le Christ nous a accueillis. Je crois profondément que la différence, selon le Christ, est porteuse de richesses. Et l'une de ces richesses, c'est qu'elle rend possible la complémentarité. La complémentarité. Donc, si on accueille, on veut accueillir la différence, il nous faut reconnaître nos complémentarités ou notre complémentarité. Et là encore, je ne vais pas chercher une image autre que celle que l'apôtre Paul développe. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant ? La complémentarité. La complémentarité implique pour que chacun de nous, en tant que membre, a sa place. J'entends parfois des chrétiens, lorsqu'ils sont en difficulté dans une église locale, et ça arrive d'être en difficulté dans une église, je cherche ma place. Ça arrive. Et parfois, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est peut-être pas ça la bonne question. Où est ma place ? Parce que ta place, elle est là. Ce n'est pas l'autre qui te la donne. Ce n'est pas pousse-toi, je prends la place. Ou c'est pas s'il te plaît, est-ce que je prends la place ? Parce que ce n'est pas une affaire de chauffer une chaise. Il y a plein de gens qui ne sont pas là, physiquement, mais qui sont avec nous, qui sont dans l'église. Mais en fait, tu as déjà ta place. Ta place, Dieu te l'a donnée en Jésus-Christ. Tu es membre du corps. Tu es membre du corps. La question, c'est comment accompagner chacun de nous à apporter sa fonction singulière à ce corps. C'est comment accueillir ce que Dieu te donne pour moi et moi pour toi. Ce n'est pas une question de place, de titre. C'est une question de vie organique. Et l'apôtre Paul est en train de dire que si tout le corps était un foie, bon, peut-être que ça ferait du foie gras, mais de celui-là, je n'en mange pas. Hein. La complémentarité, c'est ce qui rend possible la reconnaissance de l'autre comme personne non interchangeable. J'en dis souvent, ah, c'est le pasteur qui remplace Norbert. Non, je ne remplace pas Norbert. Norbert est là. Il est irremplaçable. J'ai pris la suite. Je ne remplace personne. J'apporte au corps à la place où le Seigneur m'a placé, qui je suis. Et nous ne sommes pas interchangeables. La complémentarité signifie que je ne peux pas dire à mon pied droit de passer à gauche et à mon pied gauche de passer à droite. Ça ferait 2 pieds beaux terribles. Hein. Bon, pardon, hein, ça peut arriver le pied beau, ce n'est pas facile. Hein. Mais je ne peux pas non plus. Imaginez quelqu'un qui aurait 2 cerveaux identiques. Et pendant que le cerveau passe la commande, envoie un SMS à ton amoureuse et à la main droite, tac, tac, et l'autre est en train de dire, signe un chèque. Ce serait le chaos. Ce serait le chaos. Et parfois, c'est aussi le chaos dans l'église parce qu'on confond ça. On croit que tout le monde est interchangeable. On croit que intégrer, ça veut dire mettre les gens à une place qui n'est pas la leur. Mon ami, ma sœur, si tu chantes comme une casserole, Dieu t'aime, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter. Mais peut-être que ta place n'est pas dans la conduite de louange d'un groupe. C'est un cas que j'ai géré dans une autre église. Une personne qui avait un cœur pour chanter et qui chantait avec joie, mais à faire dégamer toute une chorale. Et qui voulait être dans l'équipe de louange. Mais c'est compliqué de dire à un frère, à une sœur bien-aimée, écoute, je vois ton cœur de louange, mais ta place n'est pas là. Parce que pour conduire quand même le chant, il faut quand même pouvoir chanter et aider la communauté à chanter de manière harmonieuse. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas quand tu chantes. Moi, je t'entends chanter et ça ne me pose pas problème. Alors parfois, on dit, tu sais, même si je chante comme une casserole, Dieu, il entend toujours juste. Ça, je peux vous dire que Dieu, il entend ce qu'il entend. Hein. Et comme il entend, mais il nous aime quand même. Je ne sais pas s'il y a entre mon plafond et le ciel une sorte de transmuteur qui fait que tout d'un coup, ma voix devient angélique dès qu'elle traverse le toit. Ça, j'en sais rien. Mais je sais qu'il m'entend chanter avec la voix qui est la mienne. Si je chante faux, il m'entend chanter. Mais faux, mais comme un papa ou une maman qui aime son enfant, l'important c'est quoi? C'est pas de dire est-ce qu'il est en fa dièse ou en si bémol, est-ce qu'il est dans la tonalité. C'est il chante, il est content, il dit des choses, ça me touche. C'est ça l'important. La complémentarité, ça ne veut pas dire que toutes les places dans l'église sont interchangeables. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul rappelle qu'il a donné un ordre aussi dans la complémentarité. Tout le monde n'a pas le même ministère. Tous n'ont pas les mêmes dons. Tous ne sont pas aux mêmes places. Et parfois dans l'église, au motif qu'on veut intégrer, on confie des responsabilités sans s'assurer qu'on est en train de mettre une personne à sa place. Ça provoque des souffrances, même pour la personne qui est mise à une place qui n'est pas la sienne. Moi, il y a des chaussures de mon fils que j'aime, mais sauf que cependant, je chausse du 46 et qu'il chausse du 44. Hein. Et que je peux tricher un temps en recroquevillant mes orteils pour entrer dans ses baskets et faire le jeûne. Mais la réalité, c'est qu'au bout de 30 minutes, j'en ai marre. Et que je quitte ses baskets. Hein, et que je préfère être pieds nus. Parce que ce n'est pas ma place. Hein. Parce que je ne suis pas à ma place. Hein. Et quand on n'est pas à sa place, on en souffre. Hein. Quand on n'est pas à sa place, on est le premier à en souffrir. On le sait, on le ressent. L'un des travaux de l'Église, du Conseil, des frères et sœurs qui sont peut-être un peu plus avancés, c'est de nous aider à discerner nos dons et à trouver, non pas notre place, mais le service que le Seigneur nous appelle à rendre. Troisième et dernier point, la solidarité. Je crois que vivre l'Église comme un corps où chacun compte, c'est tout ce que nous venons de dire et je ne serai pas exhaustif. C'est la valorisation de chaque membre, c'est la reconnaissance que tous sont importants, que tous sont importants autant pour moi, que chacun compte, que chacun a de la valeur aux yeux de Dieu. Et que même celles et ceux qui peut-être sont complexés en disant « moi, mon don, il est petit, il ne se voit pas » et tout. Et l'apôtre Paul nous dit « au contraire, ayez beaucoup plus d'égard pour cela. » Pour quelqu'un comme moi qui a la lourde responsabilité d'être devant régulièrement et de prêcher, c'est pas peut-être moi le plus à encourager. C'est peut-être l'autre qu'on ne voit pas, qui se dit « mais mon service, personne ne vient jamais me dire merci ». Qui vit de nos poubelles, des sanitaires. Vous savez, ce n'est pas une entreprise extérieure, c'est une équipe, c'est des hommes, des femmes, comme vous et moi, qui nettoient nos chaises, le sol. Est-ce qu'on leur dit merci? Est-ce que c'est visible? Vous savez qui appelle, qui fait attention à cette personne qui n'est pas là depuis quelques semaines et qui l'appelle? Ce n'est pas toujours moi, il y a des équipes pour ça. À qui je pense cette semaine et elle dit « Allô, je pense à toi. » Ce n'est pas qu'une affaire de pasteur, c'est une affaire d'attention les uns aux autres, de soucis les uns des autres, hein. Faire corps les uns des autres. Manifester enfin une autre solidarité. Un membre souffre-t-il? C'est le verset 26. Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. La solidarité, lorsqu'elle est vécue, renforce le sentiment d'appartenance. Lorsque j'expérimente concrètement que les autres ne sont pas indifférents à ma vie, à mes larmes comme à mes joies, alors grandit en moi ce sentiment que je fais vraiment partie de la famille de Dieu, que je fais vraiment partie de ce corps du Christ. Quand je dis « je dis aussi tu, je dis aussi nous, je dis aussi vous. » Et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à vivre. Le corps souffre avec un membre blessé, il se réjouit aussi avec un membre honoré. Mais parfois j'ai l'impression que ceux qui souffrent, je vais dire ça comment, attention, je vais dire autrement. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une prime à la plainte. Et j'entends aussi des gens qui disent, mais pasteur, ça veut dire que je n'aurai pas une visite de toi parce que je vais bien. Et je me repens de ça. Tous ont besoin d'être accompagnés. Ceux qui vont bien comme ceux qui ne vont pas bien. Il ne faut pas être malade. Il ne faut pas être dans la difficulté pour éprouver le soutien de Dieu. Se réjouir avec les parents dont les enfants ont passé une étape. Tu es entré au collège, je me réjouis. Tu as fini ton bac, je me réjouis. Ah, on ne voit plus tel jeune d'horizon, mais ils ont eu leur bac, ils sont partis. Eh bien, je te félicite, on se réjouit. Se réjouir du bon, se réjouir de ce qui marche, sans oublier celui qui souffre. Solidarité matérielle, solidarité affective. Nous ne jouons pas à être frères et sœurs dans l'Église. Nous le sommes. Nous le sommes. Nous ne jouons pas à se dire, est-ce qu'on s'aime ? Nous voulons aimer. Et nous sommes atteints émotionnellement, y compris, par les blessures qui concernent un autre. Et nous nous tressaillons de joie par les joies qui sont celles d'un autre aussi. Je trouve qu'il y a tellement plus de courage à demander de l'aide qu'à donner de l'aide. Il y a sans doute plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais il y a plus de courage à demander la prière, à demander un service qu'à le donner. Et j'aimerais nous encourager à découvrir ce courage-là aussi dans nos solidarités, d'être capable de dire, frère, sœur, je passe un moment difficile. Quelqu'un m'a demandé ce matin, est-ce que ça va ? Je lui ai dit, non, ça ne va pas. J'ai mal à mon corps à tel niveau. Soyons vrais. Osons la vulnérabilité. Permettons au Saint-Esprit de nous consoler par le frère, par la sœur. Permettons au Saint-Esprit de nous visiter par le frère, par la sœur. Abat les façades. Oui, il faut peut-être plus de courage et d'humilité pour demander que pour donner. Mais sans opposer l'un et l'autre, il s'agit de reconnaître notre intrinsèque solidarité comme un don de Dieu et de ne pas nous en priver. En conclusion, frères et sœurs, tous et chacun, nous appartenons à un même corps uni par l'Esprit Saint. Puisque nous sommes en Christ, si du moins vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, alors l'Esprit qui vous y a conduit est le même qui anime l'Église, qui anime les autres. Ne pas l'oublier peut nous aider dans les moments difficiles, dans les moments d'incompréhension, quand notre différence devient un piège, de nous rappeler que ce qui est en jeu, c'est l'amour du Christ, c'est le lien de l'Esprit par la paix. Notre diversité renforce la complémentarité, la solidarité et l'unité. Alors, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Romains, Romains 12, verset 4, « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes qui n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns les autres. Soyons cette Église